Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 4. Chez les maristes à Alep, départ pour Beyrouth.
Mais il y a eu à cela aussi des péripéties, parce que nous avons dû arriver à Alep dans l'après-midi de la même journée. On s'est installé d'abord à l'hôtel Baron, qui était un hôtel datant de probablement 50 ans ou 80 ans, et dans lequel avaient dû se promener des créatures à la Agatha Christie avec des capelines et des bouquets de réséda. Et c'était un délicieux hôtel avec des charmilles complètement à l'ancienne. On y a passé le temps d'ouvrir la maison que mon père avait trouvée pour nous, qui est une sorte de bâtisse cubique en plein soleil, enfin, avec des trottoirs des quatre côtés, pas un arbre, et l'éblouissement d'un soleil minéral, un soleil qui a l'air de taper sur ce qui est du pavé, du caillou cassé, du mica, quelque chose d'extraordinairement insolent et qui brûle vite. Bon, alors à Alep, il a encore fallu se réadapter. Je veux dire que nous allions chez les maristes, au collège Champagnat, si je ne m'abuse, et les habitudes des maristes étaient absolument différentes, indépendamment du fait qu'on quittait la Turquie, que ceux que j'avais pu trouver à Istanbul. Dans la salle de classe, il y avait une allée du milieu et symétrique, il y avait des émules d'un côté et de l'autre de cette tranchée médiane. Et quand un tel avait mal répondu, on appelait son émule, et l'émule symétrique se levait et tâchait de répondre mieux, système qui n'est pas mauvais du tout. Et puis, et même à l'église, enfin, je crois que le pain quotidien que j'avais l'habitude d'invoquer dans le Notre Père a dû être remplacé par le pain de chaque jour, enfin, ou peut-être l'inverse, mais enfin, parce que ça changera encore plus tard. Donc des dépaysements auxquels on se fait, bien sûr, très rapidement. De toute façon, la nourriture était encore pire que celle qu'il pouvait y avoir à Saint-Louis des Français à Istanbul, parce qu'il s'y rajoutait simplement le gras de l'assaisonnement qui est beaucoup plus... On entrait chez les Arabes, je veux dire, on n'était plus dans le monde turc, qui est un monde encore un peu grec et levantin, mais on entrait carrément dans le monde arabe, avec d'autres nourritures qui sentent davantage le désert. Mais ce qui s'est surtout passé à Alep, où on est arrivé comme cela à Pâques, c'est que quelques semaines plus tard, 5, 6, pas davantage, il y a eu cet épisode, au fond très peu connu en France, qui a été la guerre franco-française de Syrie, avec les troupes de la France libre, dans lesquelles il y avait le général de l'Armina, de la Troutassini, etc. Monclar, le général Monclar, qui, avec les Anglais, eux, qui étaient installés dans ce qu'on appelait à l'époque encore la Palestine, et la Palestine qui était aussi au moins protectorat britannique, venaient à l'assaut de la Syrie et du Liban, qui étaient encore, en tant que protectorat français, ressortissants du gouvernement de Vichy, avec l'armée qui était établie, l'administration qui était établie, etc. Il y a eu une petite guerre, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de batailles, il y en a eu une ou deux, mais je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de dégâts et de victimes. Il y a eu quand même sur Alep deux nuits d'alerte et au moins un avion qui a dû lâcher deux bombes. Et pendant longtemps, j'ai même conservé comme une espèce de fétiche un morceau d'une espèce de ferraille quelconque, compacte, mais tourmentée, enfin, à l'air de ce qui sera plus tard une sculpture abstraite, et que j'ai gardé, enfin, comme souvenir de la guerre. Mais l'incidence de cette guerre, très remarquable, ça a été que les Français, j'allais dire légitimistes, qui étaient en tout cas légitimistes d'un point de vue administratif, eh bien, ils ont regagné le gouvernement dont ils dépendaient, qui était Vichy. L'armée, bien entendu, sauf la part de l'armée qui a choisi de rallier à ses risques et périls la France libre, avec le peu de troupes qu'elle avait déjà et qu'elle ramenait du côté de qu'elle faisait revenir de Brazzaville et lieux semblables. Les enseignants de la mission laïque, bien entendu, et les meilleurs même des jésuites qu'il pouvait y avoir à l'université Saint-Joseph à Beyrouth, et qui ont été rappelés, ne laissant à Beyrouth que les jésuites les plus âgés, les plus valétudinaires, ou ceux dont techniquement on avait absolument besoin pour des questions d'archéologie qui étaient évidemment locales et dont ils étaient spécialistes. Et le résultat a été que mon père, qui était à Alep au DHP, c'est-à-dire le Damas, Hama et prolongement, ligne de chemin de fer, qui alors pour le coup était tout à fait dans sa spécialité de chemin de fer, eh bien, la plupart des légitimistes de Beyrouth étant partis, il a pu quitter Alep pour Beyrouth, ce qui évidemment était beaucoup plus intéressant pour nous à toutes sortes d'égards. D'abord parce que c'était près de la mer et non pas dans le désert un petit peu éblouissant qui est celui d'Alep, avec juste l'admirable colline de la citadelle qui se profile au loin dans un ciel bleu d'incendie. Mais qu'il y avait l'université Saint-Joseph qui était tout de même là, c'est-à-dire des possibilités d'études à plus long terme pour les garçons, et à toutes sortes d'égards, enfin quelque chose de plus agréable, de plus ouvert et de plus civilisé que la station à Alep qui était plus ascétique. Donc, nous ne passerons à Alep que jusqu'au mois de juillet, et je me rappelle qu'au mois de juillet, au début du mois de juillet, après une abominable maladie que j'ai eu une espèce de malaria comme on n'en attrape que dans ces pays-là. Mais il faut dire que si nous suivions en Turquie, à Zonguldak, les règles d'hygiène, l'aseptisation des légumes, des salades, etc., etc., Alep était tellement insalubre. Il y avait une espèce de petit fleuve, enfin qui s'appelait fleuve, mais qui ne mériterait même pas le nom de ruisseau, qui s'appelait le Kouek, Q-O-U-E-Q, et qui coulait à sec sous une espèce de pont de pierre, et il y avait des miasmes qui en sortaient, des miasmes, des mouches bleues, des moustiques, je veux dire. Bon, et j'ai attrapé la malaria. Une vilaine malaria, parce que, bon, la malaria, je n'en ai pas gardé de séquelles, Dieu merci, parce que pour presque tout le monde, elle, une fois qu'elle a été là, elle peut revenir. Mais j'ai eu une fièvre absolument dévorante. J'étais en train de lire Jules Verne à ce moment-là. Je lisais Mathias Sandorf et j'ai cru que j'étais en train de m'échapper d'une tourelle en m'accrochant au paratonnerre et en me faisant brûler les doigts à l'arrivée de la foudre dans le paratonnerre et que je tombais de là-haut comme dans l'histoire de Mathias Sandorf. Et je me rappelle avoir dit à ma mère, et ma mère d'ailleurs me l'a rappelé et confirmé, je lui ai dit, mais étant donné que Napoléon est à côté, pourquoi est-ce qu'on ne lui demande pas de venir me voir? Voilà, c'est mon délire d'Alep et la malaria enfin, que j'ai attrapée du pays et qui est à peu près tout ce que j'ai rapporté d'Alep, mais j'en ai rapporté une autre histoire qui m'a poursuivi pendant longtemps parce qu'elle a commencé à m'éclairer un peu et d'une façon qui ne concernait en un sens que notre famille, des choses que j'avais déjà commencé à flairer et à subodorer à Istanbul, c'est-à-dire la précarité de tous ces levantins, qui ne sont même pas levantins dans la mesure où ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de commerce, ils ne sont pas vraiment implantés. Mais ces Italiens et ces Français de passage, qui sont tout à fait les bienvenus, et qu'on accueille à bras ouverts, et qui travaillent très bien, et qui s'acclimatent très bien, et qui se disent « on resterait volontiers là 20 ans, 200 ans, la vie entière ». Et puis ce n'est pas simplement le séisme ou la peste ou l'inondation, mais c'est simplement la politique, la guerre qui fait qu'on était d'un côté et tout d'un coup on est de l'autre. Maman, qui avait évidemment dans tous les coins des échelles du Levant, tout toute une parentèle. Enfin, il y en avait à Rhodes, il y en avait à Chypre, il y en avait en Égypte. Il n'y avait pas de coin où on ne trouve pas au moins un cousin issu de Germain. Enfin, et à Alep, elle avait effectivement trouvé une cousine issue de Germain, qui s'appelait tout à fait comme elle, une mademoiselle née Vernazza, qui était devenue une Madame Bonaparte, mais qui s'était trouvée très bien là et en accord avec la France vichysoise parce qu'elle était italienne. Mais à partir du moment où ça n'a plus été la France vichysoise, mais la France libre, eh bien, elle s'est trouvée indésirable en tant qu'italienne, bien heureuse encore de ne pas être mise dans un camp de concentration. On l'y aurait mise peut-être s'il y en avait eu, mais il n'y en avait pas, mais ses fils se sont carapatés très vite. Enfin, ils étaient en âge de porter les armes en Italie et ils ont pris la fuite avant d'être alors eux pour le coup emprisonnés. Et elle s'est trouvée indésirable et ayant à se faire la malle très rapidement. Et je veux dire, j'ai appris cela comme une espèce de leçon d'Orient que je ne perdrai jamais. Et aussi bien, lorsque nous arriverons à Beyrouth, la première personne à nous accueillir sera l'oncle Albert. L'oncle Albert qui était, que je réfléchisse bien, un cousin germain de mon grand-père. Bon, donc pour maman, quelqu'un d'extraordinairement proche. Il avait une délicieuse barbiche blanche et il était président des anciens combattants français de Beyrouth. Tu parles. ça représentait quelque chose. Ça représentait quelque chose. Voilà dans la mémoire du pays. Et l'oncle Albert, c'est une des choses les plus frappantes et les plus touchantes que j'ai vues en arrivant à Beyrouth et une espèce d'exemple de cette hospitalité absolue qui caractérise l'Orient, et en Orient peut-être plus encore les gens de passage que les gens qui sont chez eux. D'une certaine manière, les passants sont plus hospitaliers parce qu'ils savent qu'ils ne font que passer et qu'ils partagent le sort commun et que ceux qui viennent maintenant passer vont être comme eux. Eh bien, il y avait chez mon oncle Albert, la mère de cette tante Virginie qui était chassée d'Alep, une vieille tante Eugénie, qui reviendra certainement dans mon histoire, une vieille tante Eugénie qui avait été mariée, qui avait été autrichienne, qui comme nom de famille portait Stolzenberg, ce qui est presque princier, et qui était simplement une pauvre vieille dame édentée, qui faisait pipi sous elle, et qu'il fallait traiter avec les plus grands égards, qu'elle accueillait avec beaucoup d'orgueil, et comme quelqu'un qui n'allait pas cesser de se faire servir sous le prétexte qu'elle n'avait plus rien. Et une autre qui était célibataire à 85 ans, la tante Marie, et Albert qui avait une femme, et qui hébergeait en plus son fils, qui avait été sous-officier dans l'armée française légitimiste, vichysoise, donc, qui avait réussi quand même à se faire envoyer au Maroc, là, juste à l'instant, enfin, pour faire oublier qu'il avait été vichysois d'abord. Mais il avait donc chez lui ses deux vieilles sœurs, sa femme, sa bru, et le petit garçon de la bru, qui attendait d'aller rejoindre le papa parti vers le Maroc. Et on se serrait, on se poussait les uns les autres, et il y avait les fruits du bon Dieu et les légumes du bon Dieu, et il y avait cette hospitalité. Le cœur est ouvert, le sourire est ouvert, parce que le cœur n'est jamais vraiment ouvert quand le sourire n'y est pas. Et s'il y a une merveille de l'Orient tel que j'ai pu le connaître à ce moment-là, c'est que dans l'acte d'accueillir et la main tendue et le geste par lequel on montre que vous pouvez vous asseoir, au bout du geste, il n'y a pas simplement le plat de fruits confits qu'on va vous tendre, mais il y a aussi déjà le sourire avec lequel on vous prie de le faire. Alors, à cela, oui, j'ai eu le sentiment que j'appartenais et que sans doute, sinon un sol qui soit à moi, il y avait une famille qui suivait ce même genre de rite, qui pratiquait le même genre d'ouverture avec le même genre de sourire, et que d'une certaine façon, une certaine fraternité et hospitalité se pratiquait là. Mais ni avec ceux qui, à Beyrouth, étaient implantés, sûrs d'eux-mêmes, riches et fiers de l'être, ni avec les Français qui étaient nécessairement restés et peut-être marqués encore plus, tel du fait de la guerre, des Français de France. Mais va évidemment commencer à Beyrouth un autre épisode, un épisode « Comment on devient un petit Français » qui va durer cinq années bénies.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.